semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 23 janvier, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble pour vivre 7 jours d'actualité sur la planète avec les correspondants et les envoyés spéciaux de RFI. Après le flash, direction l'Afrique, le Gabon et le Burkina Faso. Rendez-vous avec vos messages également. Et tout de suite, la voix d'un grand réalisateur italien qui nous a quittés cette semaine. Il s'agit bien sûr d'Ettore Scola, le réalisateur de « Nous nous sommes tant aimés » ou d'une journée particulière. Écoutez-le quelques secondes parler du cinéma, justement.
Je pense que le cinéma ne sert presque à rien, ne peut pas changer la réalité, ne peut pas amener des changements, des révolutions, mais une possibilité là, et c'est-à-dire de donner une pensée de plus à un spectateur.
Ettore Scola, donc une semaine d'actualité, une émission que vous pouvez, que vous devez podcaster sur le site de la radio RFI.fr. Notre invité aujourd'hui est Yann Mince. Ce n'est pas le journaliste d'Alternative économique que nous invitons, mais l'auteur de 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman, un livre publié aux éditions Les Petits Matins. Bonjour Yann Mince.
Bonjour.
Vous avez dû beaucoup travailler parce que c'est un livre très clair sur des questions parfois très compliquées, hein. 30 questions pour comprendre ce monde musulman. C'est un défi que vous êtes lancé.
C'est un défi que l'éditeur m'a lancé, puisque c'est une idée d'éditeur au départ. Et j'y ai rapidement adhéré parce que je pense que, et c'est un problème que tous les journalistes connaissent, surtout quand on fait de l'information sur l'actualité chaude, comme on dit entre les journalistes, dans les quotidiens, dans les radios, dans les télés, forcément on emploie tout un tas de références, un tas de termes, sunnites, chiites, djihad, calife, qu'on peut pas expliquer tous les jours, que les auditeurs, les lecteurs, les spectateurs sont supposés connaître, dont ils sont supposés connaître le sens, etc. Alors je crains, je redoute que sur un certain nombre de ces sujets-là, effectivement, l'auditeur moyen ou l'électeur moyen n'est pas forcément les fondamentaux, comme on dit, à la fois sur ces termes dont je parlais, et puis aussi sur le passé de cette région, de ce monde arabo-musulman, surtout, puisque c'est quand même très centré autour du monde, du Moyen-Orient, du Proche-Moyen-Orient, et puis évidemment de l'Afrique. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas, en France singulièrement, le film de ce qui s'est passé dans ces pays depuis 100, 200 ans, sans lequel on peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui, et notamment les mouvements djihadistes. Du coup, c'était pas forcément clair pour moi quand j'ai commencé à écrire le livre, mais c'est beaucoup un livre d'histoire ou de sens, d'histoire et puis de grande histoire, pour essayer effectivement de retracer les récits pour que les lecteurs comprennent pourquoi on en est où on en est aujourd'hui. Ça ne vient pas de nulle part. Al-Qaïda, les mouvements djihadistes, les talibans, tout ça, ça ne tombe pas du ciel, c'est pas des inventions récentes. C'est le résultat d'une histoire, et d'une histoire qui est spécifique dans les différentes régions et dans les différents pays. La trajectoire de la Turquie, la trajectoire de l'Iran, ou la trajectoire de l'Arabie Saoudite et celle de la Syrie ne sont pas les mêmes. Et évidemment, c'est vrai aussi pour le Mali, pour la Somalie, pour le Nigeria, ou pour d'autres pays.
Partons pour la Pologne maintenant, Yann, ou plutôt pour Strasbourg, où le Premier ministre du pays, Beata Szydlo, a tenté mardi de rassurer les députés européens, alors qu'elle mène dans son pays une politique fort peu démocratique, selon les critères européens, en matière de justice et de médias, notamment à Varsovie ce jour-là, Damien Simonard.
Qu'il s'agisse du parti au pouvoir, droit et justice, ou de l'opposition, la classe politique polonaise est d'accord sur une chose, c'était un triste jour pour la Pologne. Janusz Lewandowski, eurodéputé libéral, le qualifie même de pire jour pour son pays depuis 2004 et l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. Chaque camp se rejette la faute, les libéraux accusent les conservateurs d'avoir détruit la réputation de la Pologne en seulement 2 mois et de faire comme si de rien n'était. Réponse de ces derniers, les députés de l'opposition sont des délateurs et le débat était inutile car il n'y a aucun problème démocratique en Pologne. De nombreux observateurs s'inquiètent que Beata Szydło n'était applaudie que par les eurodéputés radicaux et eurosceptiques. Donald Tusk, président du Conseil européen et ancien Premier ministre polonais, estime quant à lui qu'un bon discours ne suffit pas à apaiser les craintes en Europe. Richard Petru, dont le Parti pour la modernité est devenu la principale force d'opposition en Pologne, appelle quant à lui à des élections législatives anticipées le plus vite possible. Mais les derniers sondages montrent que si tel était le cas, le Parti droit et justice l'emporterait à nouveau.
Restons en Europe, Yann Mince, en Angleterre. Cette fois, avec une décision fort remarquée du Premier ministre David Cameron, elle concerne les femmes musulmanes à Londres lundi. Muriel Delcroix.
Dans une tribune publiée dans le quotidien The Times, David Cameron appelle à affronter les comportements rétrogrades de certains hommes musulmans qui exercent un contrôle préjudiciable sur les femmes de leur famille. D'où le lancement d'un fonds de 26 millions d'euros pour améliorer la connaissance de l'anglais de nombreuses musulmanes, alors que selon de nouvelles statistiques, 22% d'entre elles parlent peu ou pas du tout l'anglais. Cette mesure sera accompagnée d'un réexamen du rôle des tribunaux islamiques qui appliquent la charia. Le Premier ministre estime qu'il est temps pour la société britannique d'abandonner sa tolérance passive et de mettre en avant ses valeurs libérales, et que ce changement d'attitude pourrait aider à combattre la radicalisation. Mais ce lien établi entre la maîtrise de la langue et l'extrémisme a d'ores et déjà provoqué de nombreuses critiques. Pour certains, ce raccourci risque d'accroître les tensions intercommunautaires. De son côté, l'ancienne ministre conservatrice Saïda Warsi a critiqué le fait que cette initiative fasse partie d'une stratégie antiterroriste. Pourquoi n'accorder qu'aux femmes musulmanes l'opportunité d'apprendre l'anglais, écrit-elle. Toutes les femmes devraient pouvoir apprendre l'anglais. Un point, c'est tout.
Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Yann Mince. Alors ça, cette question des femmes musulmanes fait partie des questions et des réponses que vous apportez dans ce livre, Yann, puisque vous parlez aussi de la société, sociétés musulmanes. Quel est votre commentaire sur cette proposition de David Cameron?
Ce qui est dangereux, mais pas dangereux politiquement, ce qui est dangereux socialement, c'est que des femmes soient recluses chez elles, que ce soit des femmes musulmanes ou que ce soit des femmes d'autres religions, que ce soit pour des raisons religieuses ou simplement par patriarcat, parce qu'il n'y a pas que les musulmans qui ont des comportements patriarcaux. Pensez à l'Éthiopie, par exemple, et à l'excision. L'Éthiopie, c'est un pays à majorité chrétienne. Bon, voilà. Donc effectivement, c'est très bien que les femmes d'origine étrangère qui vivent en Grande-Bretagne apprennent l'anglais et puissent l'apprendre librement, qu'elles puissent sortir dans l'espace public, qu'elle soit pas recluse chez elle, mais le lien entre le fait de ne pas parler l'anglais et le terrorisme, ça paraît un lien absurde, grossi, déformé. Enfin bon, voilà. Si c'était ça, nous aurions en France beaucoup de terroristes dans les années 60, 70, 80, ou beaucoup de femmes algériennes, effectivement, parce qu'elles parlaient mal le français, restaient entre elles et sortaient relativement peu. Pas forcément par interdit, mais simplement parce qu'effectivement, quand on parle pas la langue, on ne peut rester qu'avec des gens qui parlent la même langue que vous.
Alors la Pologne a un commentaire aussi sur le tournant un peu curieux que prend le pays avec le nouveau pouvoir.
Le tournant avec le nouveau pouvoir n'est pas très surprenant, dans la mesure où les électeurs polonais n'ont pas été volés sur la marchandise. Je veux dire, le parti Droit et Justice avait annoncé ce qu'il voulait faire. À mon sens, le problème, c'est évidemment bien sûr la situation intérieure de la Pologne, mais ça, je dirais que c'est difficile pour les Européens de changer l'opinion des citoyens polonais, des électeurs polonais. En revanche, il y a un vrai problème pour l'Europe. Qu'est-ce qu'elle fait, l'Union européenne, quand un de ses membres dérape? Et c'est pas la première fois. J'ai assisté en début de semaine à une conférence de presse de Pierre Moscovici qui citait très justement ce qui s'était passé en Autriche, où effectivement on a eu aussi des partis d'extrême droite en Autriche qui sont rapprochés du pouvoir il y a quelques années, voilà. Et puis on a depuis quelques années Orban en Hongrie, un pouvoir extrêmement populiste avec des mesures liberticides. Le problème, c'est qu'on a l'impression que l'Union européenne n'a pas l'arsenal pour faire ça, n'a pas l'arsenal pour plutôt convaincre que contraindre, mais quand on n'arrive pas à convaincre, est-ce qu'il ne faut pas avoir des mesures de contrainte? Et j'ai l'impression que les traités, de ce point de vue-là, ne sont pas très opérationnels ou pas très clairs, ou peut-être simplement que les États membres ont tellement peur que des États préfèrent partir de l'Europe plutôt que d'y rester, surtout en ce moment. On a déjà la menace d'un référendum de la Grande-Bretagne sur un départ. Évidemment, il y a toujours la possibilité que d'autres pays partent. Cela dit, dans le cas des pays d'Europe centrale et orientale, j'ai un peu de mal à croire qu'ils ont envie de partir. Pourquoi? Parce qu'ils ont bénéficié quand même de beaucoup d'aides de l'Union européenne depuis leur intégration et qu'ils en ont besoin. Ils ont encore besoin de ces fonds, même si l'économie polonaise est plus prospère que d'autres.
Alors, nous étions à Londres. Restons un instant à Londres. On a appris cette semaine que la justice, un rapport d'enquête de la justice britannique confirmait que Alexandre Litvinenko, l'opposant à Vladimir Poutine, qui avait été empoisonné avec du polonium qui avait été mis dans son thé, 3 semaines ont suffi, que cet acte-là a été vraiment autorisé par Vladimir Poutine.
Alors j'étais surpris par la façon dont le magistrat britannique a prononcé son jugement, si je puis dire, son opinion. Il dit probablement autorisé par Poutine. Alors c'est un peu embêtant le probablement, parce qu'on est dans un entre-deux. Soit effectivement il y a des éléments, et on peut dire Poutine, j'ai aucune sympathie pour Vladimir Poutine, mais quand on l'accuse, il faut être un peu précis.
Bien sûr.
Le probablement est ambigu, parce qu'effectivement on sait bien que des hommes d'État de ce niveau-là peuvent très bien ne pas approuver explicitement un tel acte, mais le laisser faire en le sachant. Donc effectivement, quel a été le degré de Poutine, le degré d'implication directe de Poutine ? Est-ce qu'il a autorisé explicitement ou est-ce qu'il a fermé les yeux, sachant que ses services feraient ce qu'il fallait pour éliminer un opposant ? Effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que David Cameron a réagi de façon extrêmement vigoureuse et que les Russes sont immédiatement montés sur leurs grands chevaux en prenant ça de très haut. On est aussi dans un espèce de ballet diplomatique. On sait très bien que de toute façon, la justice britannique ne pourra rien faire contre Vladimir Poutine, sauf à lui interdire le territoire britannique, mais ce sera effectivement une décision extrêmement grave.
Sept jours dans le monde.
Et nous allons parler cette fois, Yann, de l'organisation de l'État islamique et revenir à votre livre aussi. Encore l'État islamique avec cette fois un nouveau rapport de l'ONU sur les exactions de l'EI en Irak. New York mercredi, Marie Bourreau.
L'État islamique tue tous ceux qui lui résistent. Les citoyens qui osent s'opposer à l'idéologie prônée par l'organisation, les fonctionnaires du gouvernement irakien, les professions libérales, les journalistes, mais aussi les leaders religieux et les chefs de tribu. Les femmes et les enfants paient aussi un très lourd tribut, victimes de violences sexuelles ou mineurs enrôlés de force dans l'organisation. Le rapport de l'ONU estime que 3500 femmes et enfants issus de la communauté yézidi principalement, mais aussi d'autres minorités sont ainsi réduits à l'esclavage. Et quand ce n'est pas l'État islamique qui violente ou qui tue, ce sont les forces pro-gouvernementales ou les milices qui manquent à leur obligation de protéger les civils irakiens et qui s'adonnent elles aussi à des arrestations arbitraires ou des assassinats ciblés. Ces actes pourraient être considérés comme des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et même un génocide, estime l'ONU, qui encourage le gouvernement irakien à adhérer à la Cour pénale internationale pour mettre fin à l'impunité.
À Paris, mercredi, les représentants de la coalition en guerre contre l'organisation de l'État islamique étaient réunis pour faire le point sur le conflit en cours. Nicolas Falaise.
Le groupe État islamique recule en Irak et en Syrie, mais sa résilience doit être combattue par une intensification de l'effort militaire. Pour cela, trois objectifs formulés par le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter.
Détruire les tumeurs cancéreuses du groupe État islamique en Syrie et en Irak en supprimant ces deux centres de pouvoir, à Raqqa et Mossoul. Lutter contre les métastases de cette tumeur partout dans le monde et protéger les populations chez nous.
Intensifier l'effort militaire, oui, mais avec quels moyens ? Aucune annonce concrète ce mercredi à Paris. Reste cette phrase ambiguë du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, interrogé sur un éventuel engagement des forces spéciales françaises en Syrie.
Il y a une tradition en France que je respecterai, que ni le ministre, ni le chef d'état-major, ni quiconque n'indique là où vont les forces spéciales et comment elles s'organisent. Ce que je peux vous dire néanmoins, c'est que lorsqu'elles sont en collaboration avec les forces spéciales américaines, elles s'entendent très bien.
Les ministres de la Défense ont par ailleurs critiqué le rôle militaire de la Russie, alliée de Bachar el-Assad. Les Russes sont sur la mauvaise voie stratégique, a déclaré Ashton Carter, précisant qu'il n'y avait à ce jour pas assez de bases communes pour une coopération.
L'actualité internationale, c'est aussi l'attaque d'un commando d'islamistes pakistanais, des talibans pakistanais, contre une université du nord-ouest du pays, une vingtaine de morts. La Libye maintenant, Yann, le pays disloqué, on le sait, a désormais un gouvernement d'union nationale. L'essentiel est en quelque sorte d'y croire. Léonard Vincent.
Les traits tirés, le premier ministre libyen est apparu à la télévision mardi pour annoncer la bonne nouvelle. La formation d'un gouvernement d'union nationale, réaffirmant son intention de siéger bientôt à Tripoli. Cela dit, Fayez al-Sarraj est lucide, il sait que les obstacles sont encore nombreux, car si l'accord de Tunis énonce les principes du retour d'un ordre constitutionnel en Libye, il ne pourra commencer à être appliqué qu'à une condition, que le Parlement de Tobrouk lui accorde sa confiance. Ce vote de confiance pourrait avoir lieu dès lundi prochain, mais il n'est pas acquis que les députés donnent leur feu vert à ce mécanisme de retour à l'état de droit. Deux représentants d'une faction de Tobrouk au sein de l'organe exécutif mis en place par l'ONU ont d'ailleurs refusé d'avaliser l'accord de Tunis. Ils voulaient marquer leur soutien au général controversé Khalifa Haftar, qui entend conserver la mainmise sur les forces armées, et cette faction, opposée aux islamistes, conserve un certain pouvoir au sein du Parlement de Tobrouk. Par ailleurs, la capitale, Tripoli, est toujours contrôlée par le gouvernement rival du mouvement Oblibienne. dont les représentants ont certes avalisé l'accord de Tunis, mais qui n'a toujours pas officiellement fait connaître sa position.
Il faut aussi signaler ces derniers jours des tensions en Tunisie, dans la région de Kasserine notamment, avec de violentes manifestations pour dénoncer le chômage dans la région. Un couvre-feu nocturne a été décrété dans tout le pays hier. Un policier, rappelons-le, a été tué. Et il faut aussi noter les tensions en Haïti avant l'élection présidentielle. Ces événements, comme les autres, sont à suivre dans nos journaux et sur RFI.fr. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Yann Mince, l'auteur de 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman. Pas la peine de préciser qu'il y a un chapitre entier quasiment consacré à l'État islamique qui continue à sévir.
Qui continue à sévir, qui a commis le week-end dernier un massacre dans la ville de Deir ez-Zor en Syrie, qui est une ville qui est essentiellement contrôlée encore par le régime, mais qui est assiégée depuis longtemps maintenant par l'État islamique, qui donc essaie de continuer à avancer. À la réunion de Paris où étaient les principales forces de la coalition contre l'État islamique, effectivement, les ministres se sont satisfaits du fait que, disent-ils, l'État islamique perd du terrain, qu'il a perdu du terrain. Il en perd, mais en même temps, il en regagne d'un autre côté, ou il essaye d'en regagner. Moi, j'ai pas l'impression que l'État islamique, jusqu'à présent, soit très affaibli, et j'ai une conviction depuis longtemps. C'est que ce sont les alliés des puissances occidentales qui sont une des principales entraves à la lutte contre l'État islamique. Je veux dire que le rapport de l'ONU dont parlait Marie Bourron le dit, l'État islamique comme un état d'exaction, c'est vrai, et des horreurs quotidiennes. En même temps, les milices irakiennes, chiites ou kurdes qui s'opposent à l'État islamique sur le terrain en commettent aussi contre les populations sunnites qui vivent sous le joug de l'État islamique. Donc si on se met à la place d'un sunnite irakien, il est pris entre l'État islamique et sa brutalité et sa violence, et les exactions des milices chiites ou kurdes. C'est évidemment pas une situation extrêmement exaltante. On peut comprendre qu'une partie de la population sunnite, irakienne notamment, reste passive et attentiste, en tout cas ne se soulève pas contre l'État islamique.
Alors l'État islamique, Yann, qui a attaqué ces dernières heures des réservoirs de pétrole du côté de Ras Lanouf en Libye, ce qui me permet de vous poser la question sur justement la situation politique dans ce pays et cette constitution d'un gouvernement d'union nationale avec cette question, faut-il y croire vraiment ? Le scepticisme est de règle, de rigueur.
C'est difficile d'y croire. Alors, une fois de plus, les puissances occidentales ont très envie d'y croire, notamment les puissances européennes riveraines de Méditerranée, l'Italie, la France, l'Espagne aussi éventuellement, ont très envie d'y croire parce que l'État islamique est maintenant implanté en Libye aussi. Alors, pas évidemment de la même façon qu'en Syrie ou en Irak, mais il a une implantation réelle. Il attaque des installations pétrolières pour en prendre le contrôle. Et évidemment, ça inquiète beaucoup les puissances occidentales qui ont beaucoup poussé à ce que le négociateur Martin Kobler, un Allemand, arrive à ce que les Libyens constituent un gouvernement. Le risque, on a déjà aujourd'hui deux gouvernements en Libye. Un à Tobrouk, un à Tripoli, comme l'expliquait Léonard Vincent. On risque d'en avoir un troisième, qui est ce gouvernement un peu hors sol, si on va dire les forces principales à Tobrouk et les forces principales à Tripoli, toutes les deux n'acceptent pas le gouvernement Union nationale. Ça risque d'être un gouvernement national sur le papier, je ne le souhaite pas, mais ce gouvernement est censé s'installer à Tripoli, donc dans une des deux villes aujourd'hui qui est la capitale historique de la Libye, en tout cas historique depuis quelques décennies. Est-ce que ce gouvernement peut aller s'installer dans la capitale d'un des deux belligérants? C'est extrêmement compliqué. Et puis Léonard Vincent citait le nom du général Haftar, qui est côté Tobrouk, là, côté anti-Tripoli, le principal acteur militaire, et qui n'a pas envie du tout de renoncer au pouvoir. En fait, il aurait bien voulu, lui, être le chef de toute cette affaire, mais ça ne tourne pas comme ça. Ce sont plutôt, visiblement, ses adversaires qui prennent le devant.
Yann Mince, nous allons marquer une pause, écouter quelques nouvelles du monde, et on se retrouve dans 3 minutes pour continuer à parler des tensions dans le monde musulman à travers votre livre. À tout de suite, donc. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour revivre 7 jours d'événements avec bien sûr les reportages de la rédaction et notre invité Yann Mince, auteur de 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman, un livre publié aux éditions Les Petits Matins.
Une semaine d'actualité.
Dans quelques minutes, nous partirons bien sûr pour l'Afrique, mais pour le moment, l'actualité française est d'abord un nouveau plan d'urgence pour l'emploi annoncé lundi par le président François Hollande. Plus de formation pour les chômeurs notamment, qui du coup disparaîtront des statistiques de Pôle emploi. Clémence Denavy.
L'état d'urgence économique et sociale, dans les faits, c'est plus de 2 milliards d'euros débloqués pour former 500 000 chômeurs cette année, des aides, 2 000 euros par an pendant 2 ans pour inciter les entreprises à recruter. François Asselin est le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises.
2 000 euros, c'est mieux que rien, sauf que ce que nous demandions, nous, c'est de s'engager dans cette réforme continue de la baisse des charges sociales et d'inclure ces 2 000 euros dans une baisse pérenne des charges sociales. Nous ne sommes pas des chasseurs de primes.
Demande entendue, le CICE se transformera bientôt et définitivement en baisse de charges. Encore un cadeau au patronat pour Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Des cadeaux, il en pleut depuis des quinquennats, mais cela ne fait toujours pas reculer le chômage.
Il n'y a que ça, des aides à l'embauche. Le premier qui a annoncé ça, c'est Raymond Barre en 1977. Donc ça fait 40 ans qu'on fait la même chose, avec le résultat qu'on connaît. Ça ne fonctionne pas et ça ne peut pas fonctionner.
La CFDT attend, elle, des précisions sur la formation des chômeurs, la formation priorité du président.
Le but, c'est d'éviter que la reprise du travail ne fasse perdre des droits, mais c'est surtout d'accompagner le retour vers l'emploi. Je rappelle qu'en France, la durée d'indemnisation est la plus longue d'Europe, mais la durée de formation des chômeurs est la plus courte. C'est ce qu'il faut changer.
Patronat et syndicats doivent se retrouver dans les prochaines semaines pour négocier la nouvelle convention de l'assurance chômage.
Du nouveau dans l'affaire Kerviel, Yann Mince, le trader de la Société Générale, condamné pour avoir fait perdre des milliards à la banque qui, jusqu'ici, soutenait qu'elle ne savait pas qu'il avait joué gros, en quelque sorte, en spéculant près de 5 milliards d'euros. Simon Rosé.
La Société Générale savait, c'est évident. Ces mots n'émanent pas de n'importe qui. Ils sortent de la bouche de Chantal Léris, l'ancienne vice-procureure en charge de l'enquête au sujet des pertes de la banque. Pour elle, la Société Générale savait que son trader Jérôme Kerviel jouait gros en bourse et elle l'a laissé faire. Ces paroles ont été prononcées lors d'un entretien privé avec l'ancienne commandante de police à la brigade financière, Nathalie Leroy, qui a enregistré clandestinement cet échange. La policière qui fait part depuis plusieurs semaines de ses doutes et de son sentiment d'avoir été instrumentalisée par la Société Générale alors qu'elle menait l'enquête. Un sentiment que lui confirme la vice-procureure qui lui explique que son supérieur hiérarchique direct, Michel Metz, le chef du parquet financier, a freiné des quatre fers dans cette enquête au motif qu'il ne fallait pas mettre en porte-à-faux une banque de l'envergure et de l'importance de la Société Générale. Ces révélations qui tentent à montrer que le parquet a tenté de protéger l'établissement bancaire arrivent à point nommé pour Jérôme Kerviel. 2 audiences importantes pour lui ont lieu cette semaine. La première ce lundi pour tenter de faire réviser son procès et la seconde mercredi sur le volet civil de l'affaire. En attendant, Jérôme Kerviel est toujours condamné à 3 ans de prison ferme.
Yann, parlons des relations entre la France et le Gabon. Maintenant, elles ont connu quelques tensions ces derniers jours après des propos de Manuel Valls, le Premier ministre français, donc, dans une émission de divertissement à la télévision française. C'était samedi soir. Selon lui, Ali Bongo n'a pas été élu à Libreville, Yves-Laurent Goma, au début de la semaine.
L'ambassadeur de France au Gabon a bel et bien été reçu ce lundi au ministère des Affaires étrangères à Libreville, où il était convoqué. Dominique Renaud a notamment eu un entretien avec le secrétaire général du ministère qui assurait l'intérim du ministre d'État et son ministre délégué actuellement hors du pays. Le contenu de l'entretien n'a pas été révélé. Ce que l'on sait, c'est que le Gabon a mis une grosse pression sur la France pour obtenir une rapide réparation des propos du Premier ministre français. Manuel Valls, en affirmant qu'Ali Bongo n'a pas été élu en 2009, a particulièrement agacé le pouvoir de Libreville, qui travaille pour une possible candidature du président sortant lors de la prochaine élection présidentielle, prévue dans quasiment 8 mois seulement. Les opposants gabonais se frottent les mains et demandent à Ali Bongo d'ouvrir un dialogue national. Leur objectif est de préparer des élections transparentes dont les résultats seront incontestables.
Sept jours en France.
Il était un des plus grands écrivains français contemporains. Michel Tournier est mort lundi. Il a peu écrit, mais ses livres ont eu un grand succès. Isabelle Chenu.
Chacun de ses livres était accueilli comme un événement. Michel Tournier avait publié son premier roman, Vendredi ou les limbes du Pacifique sur le Tard, à 42 ans, en 1967. Un succès immédiat, couronné par les honneurs de l'Académie française. Trois ans plus tard, son livre suivant, Le Roi des Aulnes, rafle le prix Goncourt à l'unanimité. Entre deux récompenses, il écrit Vendredi ou la vie sauvage, une version destinée à la jeunesse, sorte d'hymne à la nature contre la culture, immense succès de librairie. Michel Tournier est ce qu'on pourrait appeler un classique moderne. Il a réintroduit le récit classique dans une époque littéraire, les années 60-70, marquée par les recherches de l'avant-garde. Tournier reprend les grands mythes et les légendes de la tradition, Robinson Crusoe, mais aussi la mythologie allemande qu'il connaît bien. Il est issu d'une famille de germanistes et a étudié en Allemagne après-guerre. La figure de l'ogre, le massacre des innocents, éclaire le Roi des Aulnes. Le mythe de Castor et Pollux et les mystères de la gémellité nourrissent les météores parus en 1975. Michel Tournier déployait un enthousiasme infatigable à arpenter la France des collèges, passant des heures dans les classes à transmettre son amour des livres et de l'écriture. Son autre passion était la photographie. Il avait animé à la télévision dans les années 60 une émission intitulée Chambre Noire et créé les rencontres photographiques d'Arles avec Lucien Clergue, une passion évoquée dans un de ses romans, La Goutte d'or, paru en 1985.
À noter aussi la disparition de la femme de lettres, romancière et grande journaliste Edmond Charleroux, mercredi. Une semaine d'actualité, nous sommes donc toujours en compagnie de notre ami Yann Mins, d'Alternative Économique, auteur de 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman. On va y revenir dans le monde musulman, et on va parler des musulmans en France, évidemment, puisqu'il vous y consacrez un chapitre, Yann. Mais d'abord, je suis sûr que les propos de Manuel Valls sur Ali Bongo vous ont intéressé. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça vous intéresse.
Oui, parce que, bon, d'abord, il faut rappeler que Ali Bongo a été élu à un moment où ni François Hollande ni Manuel Valls n'étaient au plus haut, n'exerçaient plus de responsabilités, puisque c'était en 2009 au moment où c'était Nicolas Sarkozy. Si mes souvenirs sont bons, à l'époque, le Parti Socialiste avait mis en cause la validité de l'élection. Je crois même que François Hollande en avait remis une couche avant d'être président. Évidemment, ce genre de choses-là, c'est compliqué à gérer quand on devient président, parce qu'évidemment, en arrivant aux responsabilités en juin 2012, c'est difficile pour François Hollande de dire « je vais enlever tous les présidents qui ne me plaisent pas, qui n'ont pas été élus, donc il est obligé de faire avec ». Ce qui est surprenant, c'est que Manuel Valls, à mon avis, dans une réflexion qui était pas forcément préparé, parce qu'il a été mis en cause sur la présence effectivement d'Ali Bongo aux cérémonies qui avaient marqué la suite des attentats de janvier. Et en fait, il a fait un parallèle entre Ali Bongo, qui n'avait pas vraiment été élu, et Ibeka, donc le président malien, qui lui avait été vraiment élu comme il faut. Je pense que c'était probablement une erreur rhétorique qu'il est en train de payer un peu cher. Mais je suis sûr que les dirigeants français et les dirigeants gabonais, vu les intérêts entre les deux pays, vont
tout
trouver un terrain d'entente.
Apparemment, tout est rentré dans l'ordre. Je vous rassure. Il y a autre chose, l'affaire Kerviel. Les procédures judiciaires qu'évoquait Simon Rosé ont été renvoyés à plus tard, fin du mois de janvier. Une drôle d'affaire, décidément. Hein.
Une drôle d'affaire, depuis le début.
C'est qui très, dure. Hein, qui
une
dure.
Drôle d'affaire, c'est très étrange quand même que ce trader puisse jouer autant d'argent sans que personne dans les plus hautes sphères de la banque ne s'en inquiète. Ça veut dire qu'au minimum, ça veut dire qu'il y a quand même un problème de surveillance des activités des traders. Et
ou un
au pire,
de compétences.
Ou un problème de compétence, ou au pire un goût du risque qui me paraît qui là n'a pas fonctionné. Par ailleurs, ce qui est un peu étrange aussi, c'est de voir qu'une policière qui estime qu'elle a été bernée utilise un enregistrement fait de façon secrète où elle fait parler une magistrate qui ne sait donc pas qu'elle est enregistrée. C'est dommage d'être obligé d'en arriver là, disons au minimum. C'est très dommage. Après, la question de l'attitude du parquet, moi c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est effectivement de savoir si le responsable du parquet a décidé que il fallait pas juger l'affaire selon des critères de justice, mais selon des critères d'efficacité économique. Que si la justice se mêle de ça, je pense qu'elle fait une erreur, c'est pas son travail.
Alors François Hollande qui annonce lundi un plan d'urgence pour l'emploi alors que le chômage existe, il me semble, depuis longtemps, non ?
Longtemps, et puis je pense aussi que la formation, c'est probablement, formation des demandeurs d'emploi, c'est probablement quelque chose auquel on aurait pu penser, si c'est important à ce point, peut-être qu'on aurait pu y penser avant. Je connais mal les questions
de... Tout le monde remarqué que déjà un certain Raymond Barre en 1977, oui. le second premier ministre de Giscard avait lancé cette idée. Hein.
Bien sûr. En même temps, je connais pas mal les problèmes de formation, mais je soupçonne que peut-être dans la qualité des formations, dans la qualité des instituts, de toutes les sociétés, des entreprises qui font de la formation, il y aurait peut-être un peu plus de contrôle à faire pour que les formations soient de meilleure qualité, mais peut-être que je m'avance sur un terrain qui n'est pas le mien.
Bon, alors on va s'avancer sur un terrain qui est le vôtre à partir de votre livre, Les tensions dans le monde musulman, et vous consacrez un chapitre, une partie de ce livre, la quatrième, pour être précis, à la situation des musulmans en France, qui est singulière, non ?
Elle est singulière d'abord parce que c'est effectivement le pays d'Europe qui a une communauté musulmane la plus importante numériquement, donc ça effectivement c'est plus important. C'est important
même aussi... si officiellement il n'y a pas de statistiques sur.
Non, enfin bon, il n'y a pas de statistiques parce qu'évidemment en France on peut pas faire de statistiques confessionnelles, donc on est contraint à faire des estimations, etc. Donc les chiffres varient, 4 millions, 5 millions, un peu plus, un peu moins. Enfin, en gros, on est dans cette épure-là, je pense. Sachant qu'après, qu'est-ce que c'est qu'un musulman ? Est-ce qu'un musulman c'est quelqu'un qui vient d'une famille où on pratiquait plus ou moins l'islam, est-ce qu'on va fixer des indicateurs de pratique, etc. Ce qu'on observe dans les enquêtes, visiblement, c'est que une partie des musulmans aujourd'hui ont une pratique peu dans la prière et plutôt dans l'alimentation, c'est-à-dire le fait de manger halal, le fait de respecter le ramadan. Donc pas des choses extrêmement spiritualistes, si je puis dire, là, ce qui est plus spirituel, puisque c'est une obligation de tout musulman, les cinq piliers de l'islam, il y a la prière quotidienne. Ça, visiblement, c'est pas la pratique la plus importante. Et le voile, contrairement à toutes les angoisses, à tous les fantasmes, etc., en fait, très peu de musulmanes français. Alors évidemment, c'est impressionnant parce qu'il y en a plus qu'avant numériquement. Forcément, avant, il y avait moins de musulmans en France. Et ce qui me frappe, moi, c'est que pour beaucoup de gens encore en France, l'islam reste une étrangeté. Et là, on sent tout le poids, en dépit de tout le discours sur la laïcité en France, on sent le poids de la religion catholique en France aujourd'hui encore, qui pèse très lourd, de par l'histoire de la France. Beaucoup de gens qui sont pas du tout pratiquants, qui sont pas religieux, qui ont pris beaucoup de distance à la religion, sont pas très gênés par la présence dans l'espace public de symboles chrétiens, parce qu'ils sont censés faire partie du patrimoine, alors que des symboles non chrétiens et singulièrement musulmans deviennent tout d'un coup, sont perçus comme une espèce d'agression, alors que c'est simplement, par exemple, des lieux de culte. Je trouve beaucoup mieux qu'on ait des mosquées, plutôt que les gens soient obligés de prier dans la rue, avec toutes les déclarations que ça donne chez Madame Le Pen sur l'occupation et tous ces délires.
Une semaine d'actualité.
Et nous partons, Yann, pour l'Afrique. Maintenant, évidemment, c'est l'heure dans cette émission. Au Burkina Faso, précisément une semaine après l'attentat sanglant de Ouagadougou. Je vous rappelle que 30 personnes, dont 22 de nationalité étrangère, sont mortes sous les balles des terroristes qui ont attaqué le 15 janvier donc le restaurant Cappuccino et l'hôtel Splendide de la capitale. C'est un drame humain avant tout, évidemment, mais cet attentat a aussi des répercussions économiques. Reportage de notre envoyé spécial, Frédéric Gard.
Les artisans bronziers en face de l'hôtel Indépendance ont déjà connu la destruction de l'Azalaï pendant la Révolution, puis le putsch de septembre et aujourd'hui l'attentat du Splendide. Un coup dur de plus pour Pascal et Rasmané qui hésitent entre découragement et obstination à gagner leur vie.
Avant même la Révolution, en tout cas on faisait des bonnes affaires, mais de nos jours c'est trop dur. Honnêtement ça gâte et jusqu'à présent ça continue de gâter.
Vu que l'hôtel a été saccagé, gagner moins de touristes, moins de blancs, mais on espère que les blancs ne vont pas nous laisser tomber.
Cette détermination à vouloir continuer de travailler, on la trouve aussi chez les hôteliers et les restaurateurs du Burkina. À Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, William compte bien continuer de recevoir des clients dans son hôtel.
Dès le samedi, on a eu déjà plus de 60 nuitées d'annulés par les gens qui venaient de Suisse, du Canada ou autre. Faut pas se laisser impressionner malgré tous ces moments très durs. Je pense qu'il faut continuer à lutter, aller de l'avant par rapport à ça.
Les acteurs économiques du pays disent vouloir continuer malgré le terrorisme. Ils attendent des autorités burkinabées qu'elles leur donnent les moyens de travailler en toute sécurité.
Si on décourage, c'est fini. On ne doit pas décourager. Si on se décourage, on est mort.
Et il y a eu l'attaque d'un dépôt d'armes près de Ouagadougou ces dernières heures. La situation dans ce pays, comme dans toute l'Afrique, est bien évidemment à suivre dans nos journaux et sur le site de la radio RFI.fr. Une semaine en Afrique, suite en Côte d'Ivoire, cette fois Yann Mince, avec la réaction des parlementaires ivoiriens après le mandat d'arrêt lancé par le Burkina Faso contre Guillaume Soro, suspecté par la justice burkinabé d'avoir joué un rôle dans le putsch raté de septembre dernier. Abidjan, Anna Sylvestre, jeudi.
L'heure était à l'union, à la solidarité et à la fermeté pour les députés ivoiriens. Après le mandat d'arrêt délivré contre leur président par la justice burkinabé, les membres du bureau de l'Assemblée nationale ivoirienne ont haussé le ton. Alors que des proches de Guillaume Soro estiment qu'il s'agit là d'une affaire d'État, par la voix d'Oula Priva, l'un des vice-présidents de l'hémicycle, les élus ont, eux, fait part de leur colère.
Le bureau de l'Assemblée nationale s'indigne et condamne avec la dernière énergie, cette attitude qui bafoue l'immunité parlementaire du président de l'Assemblée nationale et qui pourrait sacrifier sur l'autel des politiques les intérêts des deux peuples qui ont une longue tradition d'amitié et de fraternité. S'insurge contre ce mandat d'arrêt qui est juridiquement inopérant, diplomatiquement et inconséquent, et inamical.
C'est la voie diplomatique qui semble être pour l'heure privilégiée par l'exécutif ivoirien. Tout semble être fait pour éviter une crise entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, deux pays voisins à l'histoire entremêlée et aux liens forts. Plus de 3 millions de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire.
Il y a une semaine, reprenant des informations de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, nous parlions de la fin de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Clara Wright, vous avez voulu en savoir plus avec une organisation présente sur place depuis le début, Médecins Sans Frontières, alors que deux nouveaux cas ont été confirmés en Sierra Leone.
En effet, jeudi 14 janvier, l'Organisation Mondiale de la Santé a annoncé, je cite, l'arrêt de toutes les chaînes de transmission connues de l'épidémie d'Ebola qui avait débuté il y a 2 ans, en Guinée-Conakry. C'est-à-dire qu'au moment de cette annonce, on ne connaissait pas de cas d'Ebola confirmé. Mais le lendemain, la Sierra Leone a recensé une nouvelle victime et jeudi, un deuxième cas a été découvert dans ce pays. La Sierra Leone a donc décidé de rétablir les contrôles sanitaires systématiques. Pierre Mandiara est responsable des programmes de Médecins Sans Frontières au Libéria, l'un des 3 pays les plus touchés.
Il faudrait certainement arrêter d'annoncer la fin d'Ebola. Par exemple, au Libéria, le pays a été déclaré Ebola free, comme ils disent en anglais, libre d'Ebola, 4 fois maintenant, en 2 ans.
Selon lui, ces nouveaux cas doivent inciter à rester vigilants et posent une nouvelle fois la question des moyens de la médecine.
Sans vaccin, sans médicaments, c'est très difficile de lutter contre une maladie. Et en l'occurrence, il n'y avait ni vaccin ni traitement contre Ebola. C'est qu'il est important de trouver des mécanismes de financement, de recherche, de vaccins ou de médicaments, même pour des maladies qui concernent relativement peu de personnes, en tout cas à un moment donné, parce qu'on s'aperçoit que finalement demain elles peuvent en concerner beaucoup plus, ou qui n'arrivent généralement que dans des pays très pauvres. C'est-à-dire que les compagnies pharmaceutiques ne chercheront pas de médicaments pour des marchés qu'elles considèrent pas intéressants. Donc, il faut que ce soit les pouvoirs publics.
Un candidat vaccin est en développement aujourd'hui. Et pour traiter jusqu'au bout l'épidémie, MSF a mis en place des centres de soins médicaux, psychiatriques et psychologiques pour accompagner les survivants d'Ebola, car ces derniers peuvent souffrir de séquelles et de dépressions sévères.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Un clin d'œil aujourd'hui à Laurence, à Paris, à Oumar Mahamat et Moussa Djamena. Bonjour à Mamadou Kondé à Conakry, à Issouf, à Koudougou, à Jasmine, à Mohamoud, à Kolongo au Mali, à assistant Ouedraogo à Ouagadougou. Un salut particulier d'ailleurs à nos auditeurs de Ouaga, frappés donc à leur tour par le terrorisme. Bonjour enfin à Oumar, fidèle auditeur qui nous a envoyé ses vœux. Bonne année à vous aussi, il est encore temps.
Sept jours en Afrique.
Toujours en compagnie de Yann Mince, notre fidèle ami et auteur donc de 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman. Vous voulez réagir à ce que cette épidémie d'Ebola a annoncé la fin de cette épidémie, mais Clara Wright le disait à l'instant, il faut être prudent.
Oui, il faut être prudent parce que je crois qu'on a eu du mal déjà à la voir partir, cette épidémie. Ça a pris un certain temps avant qu'il y ait une mobilisation, notamment, je crois, du côté de l'OMS. Et effectivement, Médecins Sans Frontières a été au premier rang dans cette affaire. Ce qui est encourageant, c'est de penser qu'effectivement, il y a des vaccins aujourd'hui. Parce qu'effectivement, même si peu de gens sont touchés en termes relatifs, bien entendu, beaucoup de gens sont menacés. Et le plus triste, c'est de penser que, effectivement, on a des laboratoires qui se disent, c'est pas rentable pour nous. C'est là qu'on comprend tout l'intérêt des organisations internationales, des pouvoirs publics, des gens qui, grâce à l'impôt, peuvent pallier ce manque d'intérêt des grandes sociétés pharmaceutiques pour des micro-marchés. C'est cynique de parler comme ça, mais c'est un fait.
Alors, il nous faut malheureusement, et vous l'évoquez évidemment dans le livre, reparler du terrorisme islamiste avec ce qui s'est passé il y a juste une semaine à Ouagadougou.
Oui, et ce qui s'est passé à Ouagadougou, pour moi, ça illustre le fait que, contrairement à ce que disait François Hollande après les attentats du 13 novembre, au moment de son discours devant le Congrès, donc devant l'Assemblée nationale, les Sénats, Réani, à Versailles, absolument, il a dit 4 fois à la fin de son discours, nous détruirons le terrorisme. Je crois qu'on peut éventuellement chasser, comme l'ont fait les armées françaises et tchadiennes en 2013, on peut chasser des djihadistes de villes qu'ils contrôlent, mais on ne peut pas détruire le terrorisme. De même, l'armée kényane en 2012 a chassé les Shabab somaliens d'une partie du territoire qu'ils contrôlaient, notamment le grand port de Kismayo sur l'océan Indien. Comment réagissent les mouvements djihadistes dans ces cas-là? Ils étendent leurs actions terroristes à de nouveaux territoires. On l'a vu, les Shabab, à ce moment-là, ont étendu leur action vers le Kenya. On se souvient des massacres de Garissa, du centre commercial de Nairobi. Et on le voit aujourd'hui avec la nébuleuse Al-Qaïda au Maghreb islamique. Alors, est-ce que c'est Acme? Est-ce que c'est Al-Mourabitoun? Est-ce que ces gens-là sont réconciliés ou pas? De fait, on a aujourd'hui des attentats, on s'en souvient, à Bamako, c'est-à-dire au sud, par rapport à ce qui était le territoire initial, originel des gens d'Acme au Mali. Et on a aujourd'hui des attentats au Burkina, et on peut craindre malheureusement qu'on en ait demain dans d'autres pays de la sous-région. Ce qui veut dire que détruire le terrorisme, je n'y crois pas. On peut éventuellement chasser des djihadistes d'un territoire quand ils en ont conquis un. Détruire le terrorisme, ça me paraît très difficile, ne serait-ce que parce que le terrorisme, c'est une technique, ce n'est pas un mouvement.
Et vous posez, c'est la 17e question que vous posez dans votre livre, et là donc la 17e réponse aussi, l'absence de perspective pour les jeunes au Moyen-Orient et en Afrique favorise-t-elle les mouvements djihadistes? Ça, c'est une vraie question.
Alors, je pense que c'est toujours pareil avec les mouvements djihadistes. Il faut distinguer les jeunes des pays du monde arabo-musulman, où l'islam, la religion musulmane est majoritaire, la Tunisie, la Syrie, etc., et ceux qui viennent, même s'ils sont de confession musulmane, de pays européens. Ce que je veux dire, c'est que quand on vit en Syrie, on peut s'engager dans les mouvements djihadistes parce qu'on pense que c'est le moyen le plus efficace de vaincre Bachar el-Assad. En revanche, quand on est en France, on n'est pas directement concerné dans sa chair par le conflit syrien, même si on peut prendre fait et cause pour la Syrie. En ce qui concerne le terreau économique et social, je pense que c'est un terreau favorable, mais il n'y a pas d'effet mécanique. C'est pas parce que il y a beaucoup de chômage qu'il y a mécaniquement de plus en plus de djihadistes, mais le risque, c'est qu'un de plus en plus de jeunes, notamment des jeunes qui ont été formés, qui ont investi dans leurs études et qui se retrouvent sans emploi du tout ou dans des emplois sous-qualifiés, soient persuadés qu'ils n'ont plus d'avenir. On se souvient du suicide de ce jeune homme, Mohamed Bouazizi, qui avait donné le déclenchement de la révolution tunisienne en 2011. On peut avoir des jeunes qui décident non pas de s'autodétruire, mais de détruire d'autres, de devenir des espèces de chevaliers de la vengeance pour l'islam opprimé, etc. Enfin, tout le discours que donnent les djihadistes. Quand on n'a pas de travail, quand on n'est pas heureux dans sa vie, quand on n'est pas épanoui, quand on n'a pas de perspective, quand on n'a pas d'avenir, quand on a no future, comme on disait du temps des punks, eh bien malheureusement, certains peuvent être tentés par cette aventure horrible qu'est le djihadisme.
14e question que vous posez dans le livre, j'aimerais qu'on termine l'émission avec, parce qu'on l'a évoqué trop rapidement tout à l'heure. La Tunisie peut-elle devenir un modèle pour le monde arabe? On a donc vu que ces dernières heures, il y a des tensions sérieuses d'origine sociale, le chômage est en question. Est-ce que ça peut remettre en cause ce modèle, cette révolution qui jusqu'ici, même s'il y a eu des attentats, même si le parcours est chaotique, est quand même une relative réussite?
Je pense que pour moi, la réussite pour l'instant de la révolution tunisienne, c'est qu'on a eu des élections en 2011, un parti Ennahda, un parti islamiste, donc les frères musulmans tunisiens pour faire court, qui sont arrivés au pouvoir par les urnes et qui, en 2014, ont perdu le pouvoir par les urnes. Et cette possibilité que les électeurs ont eue de juger les frères musulmans sur pièce, je veux dire, pendant leur exercice du pouvoir, et de dire ensuite, non, on veut essayer autre chose. C'est ça, pour moi, le grand succès de la révolution tunisienne. À l'inverse, en Égypte, l'armée a interrompu le processus. C'est l'armée qui a dit, c'est moi qui décide en tant qu'armée égyptienne que les frères musulmans ne peuvent pas continuer à gouverner, au lieu de laisser les Égyptiens en juger. L'inquiétude que j'ai pour la Tunisie, c'est que autant on a un processus politique, on a eu, je le dis, une alternance, un peu chaotique, mais une alternance, on a eu une constitution nouvelle, autant ni Narda, ni le parti qui est aujourd'hui au pouvoir, ni Datounès, ne sont capables, ou en tout cas n'ont été capables jusqu'à maintenant, de prendre à bras-le-corps les questions économiques et sociales tunisiennes. Or, dans le déclenchement de la révolution tunisienne, là, indubitablement, il y a des causes économiques et sociales, et notamment une marginalisation totale d'une partie de la jeunesse.
Et ça rejoint ce que vous disiez à l'instant sur la jeunesse, les perspectives.
Absolument.
Merci Yann Mince. Votre livre, que je recommande vivement parce qu'il est très clair, très didactique, s'intitule « 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman ». Il est publié aux éditions Les Petits Matins. Merci Yann, et
merci
à bientôt.
À
bientôt dans cette émission, bien sûr. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro du magazine Idée. Nous serons en compagnie de Mathieu Pote-Bonneville. Il est philosophe et organisateur de la Nuit des Idées qui a lieu mercredi soir au Quai d'Orsay, au ministère français des Affaires étrangères avec l'Institut français. Nous en parlerons bien sûr avec lui. Rendez-vous demain, 16h10, temps universel, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur votre chaîne préférée.